Courrier cadre, l'entretien.
Avec plus de 5000 collaborateurs dans 10 pays, VP s'est imposé comme l'acteur européen majeur pour l'e-commerce d'invendus de grandes marques. De ses débuts de déstockeur physique à son rôle de leader atypique, le cofondateur Jean-Antoine Grandjean revient sur cette aventure humaine, les leçons de vie qu'il en a tirées, les pensées limitantes qu'il a su dépasser et la culture d'entreprise qu'il a insufflée. Un entretien réalisé par Stéphanie Condis pour Courrier Cadre.
Bonjour Jacques-Antoine Grandjean, merci de nous recevoir ici chez VP à la Plaine de Saint-Denis, dans votre bureau historique plein d'œuvres d'art. Je voulais donc évoquer les 22 ans de VP cette année et savoir comment votre posture de leader et d'entrepreneur a pu évoluer au fil de deux décennies.
On peut toujours a posteriori raconter qu'on a voulu devenir ça, mais c'est pas vrai. La vie se fait en marchant, en apprenant, en se trompant, en prenant un chemin, en repartant en arrière, en faisant des erreurs, en les réparant. Et c'est ça l'histoire de VP, et c'est mon histoire qui démarre en 1985 avec mon associé, qui est toujours mon associé aujourd'hui, Julien Sorbach, 85, moi j'ai 22 ans à l'époque, et l'aventure de VP démarre là-bas. La graine de VP, c'est soldeur, mais soldeur physique. Donc un métier au bout de la chaîne industrielle dans lequel tout ce qu'on apprend dans les écoles ou dans les livres de management ne s'applique pas parce que finalement c'est l'école de la vie, on achète des stocks, des marques, on est au bout de la chaîne industrielle de leur industrie de fabrication et de vente et nous on achète les invendus et puis on les trie, on les revend. Donc vous voyez, il faut avoir un bon sens commercial, trier, et puis faire crédit et connaître des clients qui vont venir parce qu'ils ont des boutiques de solde, leur faire crédit, à leur vendre notre marchandise et avoir notre marge. Vous voyez, c'est un métier extrêmement basique. Et c'est ça notre histoire à la base. Alors après, elle s'enrichit de personnalités, d'associés, de gens qu'on embauche, etc. Et puis elle s'enrichit surtout de l'aventure digitale. Mais c'est quand même assez important de toujours remettre VP dans ce que c'est. D'abord, c'est une boîte de soldeurs. Alors, on est devenus des soldeurs digitaux, mais en fait, on ne fait pas du e-commerce. On utilise l'outil digital, qu'on appelle le e-commerce, pour vendre les stocks des marques de façon beaucoup plus qualitative et qui apporte de la valeur à ces stocks de marques qui avant finissaient dans les bacs et qui aujourd'hui finissent sur des catalogues digitaux, reportés sur des mannequins ou avec les photos des marques, dans un univers dans lequel on fournit à la marque de la créativité, de la data, de l'écoulement, de la discrétion, même si c'est très puissant parce que les ventes durent et sont très exposées, mais elles durent des moments de courte durée, donc c'est du discount, mais pas longtemps, etc. C'est ça VP. Et c'est finalement cette aventure que j'ai accompagnée le mieux possible. C'est-à-dire, être leader charismatique, je ne sais pas ce que ça veut dire moi. En fait, ça veut dire juste moi, j'avais ma boîte, elle a grossi, je la connaissais bien, je la représentais bien, j'en ai parlé, j'avais pas trop de problèmes, même si j'ai dû apprendre aussi à m'exprimer en public, à gérer mes émotions, à apprendre ce que c'est le management. Et encore, on va jamais dire que je suis un manager, je le suis peut-être sûrement aussi, mais je suis plutôt quelqu'un qui lead, qui monte la voix, qui va donner envie d'avoir des idées, de faire, d'exécuter, d'accomplir, d'inventer. C'est plutôt ça mon rôle chez VP. Ça, c'est une grande maturation. J'ai 60 ans, donc c'est une grande maturation de 38 ans. Et j'apprends tous les jours, c'est-à-dire que je n'ai pas de leçons à donner, j'ai plutôt toujours des leçons à recevoir parce que j'écoute beaucoup. Et en fait, l'aventure de VP, c'est une aventure extrêmement humaine. Elle est humaine parce que j'avais beaucoup d'associés, j'en ai toujours beaucoup. Elle est humaine parce que j'ai beaucoup de collaborateurs. Elle est humaine parce que les marques, c'est pas quelque chose de figé. Une marque, ça vit, c'est de la créativité, c'est de l'innovation, c'est du savoir-faire, c'est des prises de risques. Et donc, c'est que de l'humain, en fait. Et donc, c'est, pour répondre à votre question, c'est 28 ans de vie, de rencontres. C'est ça VIP, et on rencontre, et en rencontrant les gens, on se forge des caractères, des ouvertures d'esprit, des façons d'être différentes. Mais je trouve qu'on n'a pas beaucoup changé finalement. En 28 ans, on a pris un peu de maturité, mais on n'a pas beaucoup changé.
Mais en matière de ressources humaines, évoluer comme vous avez évolué aujourd'hui, 5000 collaborateurs dans le monde, et tout en gardant votre associé initial, plus en vous associant avec d'autres personnes, ça signifie quoi en fait? Comment on arrive à maintenir la réussite humaine en quelque sorte? Même si vous n'avez pas de conseils à donner, vous avez peut-être infos.
Vous êtes assise sur un canapé sur lequel, à partir de 2000, parce que VIP c'est 2001 le démarrage, donc j'ai l'affaire de gros qui existe toujours, mais 2001-2004 c'est en céphalogramme plat, il n'y a pas la DSL. C'est le démarrage de la DSL, c'est-à-dire l'équipement des ménages à la maison et plus seulement dans les bureaux, dans les banques, etc., qui fait que les femmes sont venues chez VIP parce qu'il y avait des marques, il y avait du discount, c'était créatif, etc. C'est un site très féminin d'âme. Mais dans cette aventure qui démarre, 2004-2005, où on passe de quasiment zéro chiffre d'affaires sur le digital à 1 milliard en 7 ans, aujourd'hui on fait 3 milliards, donc de l'hypercroissance, sur le canapé sur lequel vous êtes assis, moi j'ai embauché des centaines de personnes. Pourquoi ? Et d'abord, on en avait besoin, mais surtout, il fallait les attirer dans une société qui n'était pas vraiment une start-up, dans le digital. On est en 2001, 2002, 2003, 2004, c'est après la crise de l'Internet de 2001. Le digital, plus personne n'y croit à ce moment-là. VIP, qu'est-ce que c'est ? Les gens ne savent pas, etc. On est à la plaine Saint-Denis. Donc, c'est attirer les talents dans des nouveaux métiers. Des nouveaux métiers, ça veut dire que les gens n'avaient pas spécialement l'expertise de ces nouveaux métiers. C'est pour ça qu'on a appris à les faire tous les uns après les autres. VIP, c'est des centaines de métiers différents, même si on commence maintenant à en sous-traiter. Mais à l'époque, au début, quand on en a sous-traité, on s'est aperçu que les gens ne savaient pas les faire. Donc, autant les faire nous-mêmes et apprendre nous-mêmes. Donc, sur le canapé sur lequel vous êtes assis, des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes sont venues. Et je me souviens que c'est plutôt moi qui vendait la boîte et qui parlait, plutôt que de les écouter. Donc, vous voyez, ça c'est une vraie première leçon, c'est que moi je vendais pour qu'on vienne chez moi en disant « Oh, j'espère qu'il va dire oui ou qu'elle va dire oui ». C'est assez bizarre quand on y pense après. Mais c'est comme ça que ça s'est construit, cette hypercroissance. Parce que quand vous êtes dans l'hypercroissance et que vous passez de 0 à 1 milliard et que vous vendez des produits, donc ça veut dire qu'il faut aller les négocier, faut faire les contrats, faut produire les ventes, faut faire les photos, faut faire les prix, faut les livrer, faut faire le service client. Bref, quand vous avez cette taille qui grossit, vous pouvez exploser en vol, parce que brusquement, tout peut partir de travers et vous n'avez pas assez de personnes pour gérer les problèmes. Vous avez l'informatique qui grossit, vous avez les bureaux qui grossissent, les gens, il y a les RH, il faut qu'ils viennent ici, il faut qu'ils aient un bureau, un ordinateur, il y a du management qui se met en place. Là, franchement, vous faites avec ce que vous avez. Et ça, c'est la première expérience, c'est-à-dire on est quand même extrêmement ouvert à l'écoute des gens qui ont envie de venir travailler chez nous. Je crois que c'est quelque chose, je ne sais pas si on le met encore assez en avant dans au RH, mais je crois que oui quand même, ce que j'essaie d'insuffler. Mais bien sûr, la compétence, c'est important. Bien sûr, les motivations d'un collaborateur qui va rentrer, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que c'est facile d'embaucher, c'est plus facile de débaucher. Et on est dans un pays où le travail est quand même extrêmement protégé. Donc, il faut faire quand même un petit peu attention, même si vous avez 2 ou 3 mois de période d'essai, etc. Bon, on sait tout ça. Mais la réalité, c'est que l'envie, le désir, la créativité, une forme de dire, voilà, moi, VIP, c'est une boîte qui a une certaine qui attire en fait de l'extérieur. D'abord, on ne sait pas ce que c'est. On croit que c'est beaucoup plus simple de l'extérieur, c'est super. Il y a les marques, c'est rose. Il y a les petits bonshommes roses qui jouent, etc. Ça a l'air facile, mais derrière, il y a une exécution extrêmement complexe et on va très vite être happé par l'exécution. Mais déjà, quand les gens arrivent, déjà qu'ils aient vraiment envie de venir travailler, c'est un grand atout chez nous.
Justement, ce que vous décrivez là, ces difficultés que vous avez pu avoir au début de vos premiers pas pour recruter, finalement aujourd'hui, tout le monde quasiment y est confronté, en tout cas sur beaucoup de secteurs qui cherchent à embaucher, qui ont du mal. C'est un marché de candidats aujourd'hui, donc il faut tout faire pour attirer les candidats. Donc finalement, vous avez cette expertise depuis des années et c'est plutôt l'inverse aujourd'hui, c'est-à-dire que, comme vous dites, il y a les gens viennent plus facilement vous voir, ou il y a encore quand même ce travail à faire d'attirer les talents, de les conserver?
Écoutez, moi, je la culture, j'espère que je suis clair quand je raconte ça, mais la culture de VIP est très forte. Et c'est une société qui s'est créée dans l'oralité. L'oralité, elle vient du fait que justement, on était des soldeurs. Et chez les soldeurs, la parole, c'est dans la main. Il n'y a pas de contrat. On n'a pas les avocats qui contractualisent tous les business. C'est je te fais crédit sur ma marchandise, tu viens me payer dans 60 jours, je ne te fais pas des courriers comme ça. Non, c'est à la parole. Et donc, tout VIP s'est construit justement à cause de cette vélocité de la croissance, hein, c'est allé très très vite, sur cette oralité. Et qu'est-ce que ça fait ? Ça fait, c'est à la fois bien, et c'est un problème aussi, parce que justement, à un moment donné, les choses elles doivent être écrites, un peu plus gravées dans le marbre, sur le modèle, sur pourquoi du modèle, sur comment on l'a créé, sur ces évolutions qui sont sur lesquelles on a fait plein de tests et on sait exactement ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc pourquoi il faut que la recette soit toujours la même? Je ne dis pas que c'est la recette du Coca-Cola, mais il y a une recette VIP qui est très B2B. Hein, on est d'abord, nos premiers clients sont les marques. Ben, quand on dit ça, alors qu'on est un site de e-commerce qui vendons 100 millions de produits par an ou 120 millions de produits par an, ben, les gens ne comprennent pas. Donc, c'est quoi être B2B? Ben, être B2B, c'est tout est pensé B2B. On croit que c'est un club de membres, par exemple VIP. C'est pas un club de membres. C'est juste pour empêcher Google de regarder les prix discountés qu'on faisait pour protéger les prix des marques pour que le discount ne soit pas apparent sur Internet. C'est simple. Donc, on n'est pas un club de membres. Il y a des membres parce qu'il faut se loguer. Vous voyez, donc à chaque fois qu'il y a quelque chose sur VIP, vous avez toujours une réponse qui est B2B. Ça, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, les gens qui viennent de l'extérieur et qui n'ont pas cette culture-là, ils arrivent avec leur propre culture. Et on les a embauchés, c'est qu'ils ont du désir, ils sont intelligents, ils ont certainement un beau CV ou ils ont fait des belles études ou en tout cas, ils ont la volonté de venir chez nous et on les écoute et on les embauche. Mais ils ont envie d'aller mettre ce qu'ils connaissent. Et bien parfois, cette culture de l'extérieur, elle ne prend pas avec la culture VIP. Et donc, pour répondre à votre question, la promotion interne et le fait que des gens qui soient chez nous depuis longtemps, qui comprennent cette façon de bosser, qui ressemble, alors vous êtes dans la presse, mais ce n'est pas un quotidien. Votre journal. Mais quand on a plusieurs quotidiens, bah, tous les jours, il n'y a pas le choix, il faut sortir le journal. Bah, VIP, c'est ça, c'est 30, 40, 60, 80, voire 200 parfois événements différents, que ce soit du voyage, des marques, de la brand place, des flashs, etc., des bandeaux publicitaires, etc., tous les jours. Donc il y a un truc assez puissant en tension qui fait qu'à un moment donné, on apprend beaucoup de façon pragmatique. Et ben ça fait qu'il y a quand même cette culture-là de l'instantanéité, de c'est jamais fini, et quand c'est fait, ben, maintenant c'est demain qu'on prépare, etc., qui fait que c'est une vie assez usante, et que je trouve que c'est quand même de l'intérieur qu'on comprend le mieux et qu'on apprend le mieux ce métier particulier. Parce qu'on vraiment, on fait pas du e-commerce comme les autres. On fait des événements tous les jours. Donc tous les jours, on les produit. Et tous les jours, on en produit d'autres. Et c'est pas, et ça s'arrête jamais. Hein. Il y en a autant le samedi que le dimanche, que les jours fériés, que le 15 août. Et que le lendemain de Noël. Et ça demande, je pense, un apprentissage de l'intérieur. Et donc, c'est vrai qu'on essaye de prendre soin de nos collaborateurs dans le cadre de travail, dans l'apprentissage et la formation qu'on leur apporte, même si il faut quand même aller mettre ses mains dans le cambouis chez VIP parfois, parce que tout le monde est un peu à droite à gauche, dans la compréhension de l'entreprise et son attachement ou pas. Si on y est attaché, je crois que les gens qui travaillent chez VIP sont plus pas parler pour eux, hein. Il faudrait leur demander, mais je crois que quand on reste chez VIP, c'est qu'on y est attaché, il se passe quelque chose. Dans l'employabilité, C'est une société. Que les gens nous quittent ou qu'on a envie de se séparer, ça arrive, hein, c'est la vie. Il y a des gens qui partent et puis il y a des gens dont on préfère qu'ils s'en aillent aussi, ça arrive. Les taux pour retrouver du travail derrière VP, c'est 100%. Il n'y a pas de personnes qui disent moi, j'étais chez VP, maintenant j'ai plus de boulot. Non. Il y a une vraie employabilité parce que la personne a touché beaucoup de métiers, il y a un vrai savoir-faire qu'elle a appris, etc. Donc voilà, je trouve que l'entreprise est une vraie école de formation et les gens y restent ou sont de passage. Et moi, c'est une grande satisfaction de savoir que les gens qui partent sont des VP boys ou girls dans d'autres entreprises assez facilement, puisqu'il y a une grosse demande dans le digital. Et quand même, VP est une magnifique école.
Dans ce que vous décrivez, ça laisse une place importante à ce qu'on appelle les soft skills, les compétences comportementales, relationnelles. J'ai l'impression que c'est bien sûr qu'il y a les compétences techniques, mais j'ai l'impression que vous cherchez avant tout des profils.
Alors, je ne sais pas si je les cherche particulièrement, mais c'est comme ça qu'on fonctionne et c'est comme ça que je fonctionne. Est-ce que je sais mettre des mots dessus? Pas vraiment. Je ne sais pas mettre des mots dessus. Alors oui, bien sûr, il faut de l'expertise. Hein. À la logistique, à la production, à l'intégration, à la tech, au service client, partout, il faut des experts. Mais le désir, l'envie d'apprendre et de dupliquer, de faire progresser, c'est clé et j'essaye qu'on mette ça en place. Alors après, c'est avec les managers, c'est plus formalisé que ce que moi je vous raconte là.
Oui, j'imagine. Et aussi par rapport à vous qui avez une personnalité forte, finalement, c'est OK pour vous d'avoir dans votre entreprise des personnes qui vont avoir leur individualité parce qu'il y a l'esprit collectif que vous décrivez, l'adhésion à l'entreprise. Comment on fait pour concilier des personnalités, des individualités avec le collectif?
Alors, la clé d'une entreprise, c'est le collectif. Les individus tout seuls, ils font rien. Ça marche pas comme ça. Donc tout le sujet, c'est comment donner beaucoup d'autonomie dans un cadre qui est clair. Et la difficulté, c'est que justement, je vous ai dit tout à l'heure, que ce cadre, il n'est pas tellement écrit. Les ventes démarrent à 7h et pas à 7h05. Les gens de chez VP, ils n'ont pas le droit d'acheter avant les autres sur les ventes. Les photos, elles doivent être de qualité. Les fiches techniques, elles doivent être contrôlées. Il n'y a pas d'erreur n'importe où. Le prix de référence, il doit être validé, sinon on ne met pas de prix de référence, etc., etc. Et ça, c'est le cadre de VP. C'est plein de règles que chacun dans son service, après, peut réinventer du moment qu'il respecte la règle.
Et vous avez mentionné le fait que vous ayez deux directeurs généraux. Je me posais la question de savoir si une gouvernance collective, ça pouvait être une solution intéressante pour vous ou il faut quand même qu'il y ait quelqu'un à la tête de l'entreprise.
Ah non, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un à la tête de l'entreprise. Et alors là, je peux vous faire une petite confidence, mais par deux fois, j'ai fait le choix, donc je suis responsable, hein. Je suis totalement responsable des choses réussies et des choses ratées. Hein. Donc je ne m'exonère pas du tout de mes choix. Mais deux fois, j'ai fait le choix pour des raisons personnelles, parce que j'avais peur ou je pensais que c'était trop gros pour moi et que je n'y arriverais pas. Et que d'autres personnes, plus capées, diplômées ou avec d'autres expériences, serait meilleur que moi pour gérer mon entreprise. Par deux fois, je me suis planté grave. Voilà, end of the truc. Deux fois, je me suis planté grave. Je le prends sur moi. Pas besoin de raconter l'histoire. Mais j'ai appris la leçon. Donc aujourd'hui, d'abord, j'ai travaillé sur le concept de la pensée limitante. La pensée limitante, c'est tout ce qui, dans la construction de votre vie, depuis votre petite enfance, va faire que vous ne pensez pas être capable d'eux ou que la société va vous dire que vous n'êtes pas capable d'eux, etc., etc. Et finalement, la pensée limitante que je viens de découvrir au travers d'un garçon avec qui j'ai déjeuné récemment, m'a beaucoup animé. C'est-à-dire, oh merde, je ne vais pas être capable ou je n'ai pas fait les bons choix. Non, pensée limitante, ça ne sert à rien. les choix qu'on fait. La société, elle est bien, elle fait vivre 5 500 familles dans toute l'Europe. Elle progresse, elle a toujours été profitable, elle a eu des hauts et des bas. On a rebondi sur des moments difficiles, on a eu des moments super, on en aura d'autres, des moments difficiles. C'est la vie d'une entreprise, c'est que de l'humain. Hein. C'est 5 500 familles qui vivent de VP, plus les sous-traitants, plus tous les impôts qu'on paye, qui font vivre d'autres personnes, etc. Donc, c'est la vie. Et donc, en fait, pour répondre à votre question, je pense qu'il faut un leader. Ouais, il faut un leader. Et aujourd'hui, bah, c'est moi. Et tant que je peux le faire, aujourd'hui, je ne me limite pas en disant d'autres seront meilleurs pour diriger totalement cette entreprise. Peut-être qu'il y en a qui seront meilleurs que moi, et sûrement. Mais aujourd'hui, ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Donc, je fonctionne avec deux DGA. Et qui eux-mêmes animent un COMEX, assez nombreux d'ailleurs, un comité exécutif. Et ça fonctionne comme ça aujourd'hui, et c'est comme ça qu'on le fait depuis janvier 2020, et c'est bien comme ça.
Et donc pour l'instant, vous mentionniez tout à l'heure que vous aviez 60 ans, pour l'instant il n'y a pas de limite d'âge, de pensée limitante en termes d'âge
non,
de votre
part. Non, je vais vous dire, c'est intéressant parce que j'ai compris ça récemment, et cette société n'est pas à vendre. Parce que je vais, tant que je peux, je ne sais rien faire d'autre. Et je ne vais pas aller me mettre sur une plage ou avoir plus de loisirs. J'ai des loisirs. Si je veux aller sur une plage, j'y vais. Mais ce que j'aime, c'est quand même en revenir, etc. Donc voilà, cette société, ce qui est intéressant dans les 10 prochaines années, c'est la transmission. Et la transmission, ça se prépare, ça se travaille, c'est pas spécialement aux enfants, ça peut être aussi bien sûr, c'est la lignée, c'est aux enfants, mais les enfants ne sont pas spécialement des personnes qui vont savoir gérer une entreprise, ils peuvent être bons actionnaires, c'est déjà pas mal, hein. C'est pas moi qui avais dit ça, c'était Martin Bouygues, soit les enfants sont des futurs bons managers, soit les bons actionnaires, mais ils ne seront pas les deux, et autant choisir là où ils seront. Et être un bon actionnaire, c'est sympa, c'est-à-dire c'est intéressant, c'est une chance, dans la vie. Et surtout après, ça demande quand même, finalement, ce que on revient au début de l'interview, c'est vous avez quelqu'un en face et c'est lui qui va manager votre entreprise. Et donc, il faut le choisir, les doutes, s'entourer, comprendre, prendre des risques, les limiter, voilà, c'est la vie, quoi. Donc voilà, donc je suis dans une position où j'ai envie de continuer l'aventure très longtemps.
Merci beaucoup.
Merci.
Jacques-Antoine Grandjean de nous avoir reçus dans votre bureau.
C'est moi qui vous remercie.
Saint-Denis. Merci.
D'avoir écouté mes divagations.
Avec plaisir.
Courrier cadre, l'entretien.